et embarquons-nous tous ensemble donc pour cette rencontre sur l'espérance humaine au cœur de la courbe de l'espérance, au cœur de la condition humaine, mais avec un point d'interrogation. Alors, juste le temps à mon tour de vous souhaiter la bienvenue, de vous dire bonsoir et de remercier à mon tour donc nos quatre intervenants, nos quatre invités que je vous présente tout de suite. Alors, à mes côtés, à ma droite, Monsieur Michel Naudet-Langlois. Alors, vous êtes philosophe de votre état et catholique de votre état également. Professeur de philosophie pendant de très très longues années dans le secondaire, mais également en classe préparatoire, en Cagne, Hippocagne. Vous avez donné également des cours, je crois, à l'Institut. Et puis, il vous est arrivé de corriger des épreuves, des concours d'entrée à Sciences Po. Vous avez également à votre actif, alors, un nombre innombrable de livres. Je vais vous renvoyer au site de Monsieur Naudet-Langlois. Vous trouverez sur son site donc et sa bibliographie. Alors, je vais juste vous en citer quelques-uns. Par exemple, parce que vous êtes, je crois, un spécialiste aussi de Saint Thomas.
On le dit.
Donc, voyons, Thomas d'Aquin, Penser le politique, mais aussi Philosophe au seuil d'une conversion, il s'agit de Bergson. Vous êtes penché également sur Kant. Y a-t-il une antinomie de la raison pure? Et puis, je vous renvoie tout ça aussi de M. Naudet-Langlois. Un point également très important qui rentre vraiment en ligne de compte pour notre rencontre interreligieuse, c'est que je crois que vous êtes à l'origine d'un cercle de rencontres islamo-chrétiens.
Oui.
De l'autre côté, Pierre Lasserie, Dina, donc, que vous avez déjà présenté très très brièvement, donc de la communauté juive. Alors vous, Pierre, vous venez d'un monde professionnel totalement différent, le monde de la communication. Vous avez été pendant de longues années, je crois, vous avez dirigé une agence de publicité ici à Toulouse. Dans la communauté juive ici à Toulouse, vous êtes un des acteurs éminents, très actifs, je crois, très actifs. Vous faites partie de l'association Hébraïka, qui est une association qui promeut la culture juive dans toutes ses dimensions. Hein. Et puis la culture juive d'aujourd'hui, d'hier et puis d'avant-hier. Vous êtes également, je crois, le rédacteur en chef de la revue mensuelle de la communauté, qui s'appelle Aviv.
Exactement.
Aviv, qui veut dire printemps. Alors là, je fais la savante, mais Pierre m'a briefé auparavant. Donc, on est là. Donc, printemps, renouveau, espérance. On est tout à fait dans cette rencontre de ce soir. Que voulais-je dire? Oui, que vous êtes également écrivain. Vous avez écrit deux, trois ouvrages. Donc, un sur... que vous avez ici, peut-être. C'était « Il était une fois, Palapra ». Alors, une fois, E-F-O-I. Le récit, voire de cette synagogue, la petite synagogue de la rue Palapra, qui est la plus ancienne de Toulouse, je crois que c'est 1850.
Exactement.
Si vous avez l'occasion d'y aller au cours des journées du patrimoine ou à un tout autre moment, Pierre se fera peut-être un plaisir de vous y accueillir. C'est une synagogue, elle est vraiment, elle est très 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 belle et elle est porteuse d'histoire. Vous la faites vivre à travers une galerie de portraits.
Exactement.
De ceux qui l'ont fréquentée, qui l'ont aimée et qui l'aiment aujourd'hui et qui la fréquentent toujours aujourd'hui. Et puis également donc un autre ouvrage sur la prison Saint-Michel, également à travers une galerie de portraits de personnes qui l'ont fréquenté, alors des détenus bien sûr, des détenus, mais aussi des gardiens de prison, des avocats, des hommes de loi,
des résistants
bien sûr, et puis des aumôniers de toutes les confessions, donc juives bien sûr, mais également chrétiennes
et musulmanes.
Donc oui. On sent déjà ce terrain propice, enfin ce terrain, je ne sais pas si c'est dans votre ADN de la rencontre interreligieuse, mais disons qu'on sent cette ouverture pour la rencontre et la rencontre et la découverte de l'autre. De l'autre côté, à côté de Monsieur Naudet-Langlois, Monsieur Azinatif Mehouki, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes de confession musulmane. Vous êtes vice-président, je crois que c'est le premier vice-président, je crois que c'est ce que j'ai vu sur votre biographie, du Conseil régional du culte musulman, dont vous êtes également le porte-parole. Vous êtes également membre du CA, du Conseil français du culte musulman, secrétaire général adjoint, là je prends mes petits papiers parce que je n'ai pas tout retenu, hein. Secrétaire adjoint de la Fédération des... Fédération Union des Mosquées de France, et vous êtes tout particulièrement chargé du dialogue interconfessionnel. Vous êtes bien ancré ici, dans notre ville rose, à Toulouse, puisque vous êtes le président de la maison de quartier de Bagatelle.
C'est ça,
oui. Donc, et vous organisez donc des événements culturels, des temps forts autour de la convivialité, l'appareil de la rencontre. Vous intervenez à différents moments dans des structures éducatives, dans des lycées, à Sciences Po, à l'école de journalisme, en tant qu'intervenant extérieur. Vous donnez des cours d'arabe, je crois,
oui.
Et d'islamologie également.
À
l'université Capitole 1, où vous avez publié certains articles également.
Oui, dans des colloques, oui.
Vous avez
Oui, quand j'interviens dans des colloques, forcément des écrits par la presse universitaire. Je n'ai pas écrit de livre encore, mais peut-être je vais l'y mettre.
Ah ben voilà.
Ça va être plaisir.
Là, vous avez une émulation.
Collaborons.
Et maintenant, je me tourne vers Ariane. Ariane qui a un beau métier, vraiment Ariane. Alors peut-être que notre biographie est moins importante, mais vous êtes toute jeune. Donc vous êtes à l'orée de votre vie professionnelle et vous êtes sage-femme. Un métier qui porte, une profession qui porte l'espérance en elle-même. Mais vous n'êtes pas là en tant que sage-femme, Ariane, mais parce que vous faites partie, puisque vous êtes catholique, voilà, j'ai omis de le dire. Désolée, en fait, partie sur le diocèse du groupe du printemps missionnaire écologie intégrale. Alors voilà, lorsqu'on a parlé de communauté juive, musulmane, chrétienne, on sait tous à peu près, même si on ne se connaît pas entre nous, on sait tous à peu près de quoi il s'agit. Quand on parle de printemps missionnaire écologie intégrale, là peut-être qu'il y a quelques points d'interrogation. Ariane, je vais vous laisser nous expliquer un petit peu ce qu'est ce groupe.
Merci. Oui, alors le printemps missionnaire, il a pour but, il fait partie de la commission Église en dialogue au diocèse de Toulouse. Pourquoi ? Parce que l'écologie intégrale a été portée par les papes ces derniers temps. On pense souvent au pape François avec Laudato si, mais en fait, en montant toute une formation, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a eu beaucoup d'encycliques sur ces deux derniers siècles qui parlent d'écologie, d'espérance et de fraternité. Et donc, du coup, le rôle du printemps missionnaire, c'est de mettre du dialogue autour de l'écologie. Alors, vers le monde chrétien, qui en général a quelques préjugés négatifs sur la question de l'écologie, et vers le monde non chrétien, pour amener Jésus aussi vers les gens, mais en faisant du lien autour du thème de l'écologie.
Voilà, nous avons toute la soirée pour continuer, pour le découvrir. Merci beaucoup, Ariane. Et à présent, donc, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, alors Dina nous l'a rappelé, hein, si on regarde notre monde, ben on voit il est sombre, un monde sombre, souvent désespérant, succession de guerres, de conflits, désert, crise sociale, crise écologique, environnementale, hiver démographique. Dans ces conditions-là, parler d'espérance, n'est-ce pas un vœu pieux ? L'espérance est-elle toujours encore au cœur de notre condition humaine ? Vous allez en débattre, tous les quatre, autour de trois grands axes. Alors, monsieur le professeur, ce sera un plan en trois parties.
Ah ben, j'espère bien.
Alors, une première partie, comme l'a rappelé Dina, ce qui nous rassemble tous au-delà de toutes nos différences religieuses, culturelles, sociales, professionnelles, et tout et quanti, c'est notre condition humaine. Nous sommes tous des êtres humains embarqués sur la même planète. Donc, je ne vais pas dire embarqués dans la même galère, mais embarqués dans la même arche. Ça sera mieux. Nous allons naviguer. Donc, on va essayer de définir un petit peu ce qu'est l'espérance à hauteur d'homme, l'espérance des choses terrestres. Dans un second temps, on va s'interroger, y a-t-il une crise de l'espérance aujourd'hui, du moins ici dans nos sociétés occidentales ? Et si oui, quelles en sont les causes ? Alors, bien que nous ne soyons peut-être pas des spécialistes de géopolitique, de sociologie, mais on va tout de même essayer de s'interroger. Et donc, les causes, et puis voir également quelles peuvent en être les conséquences. Et puis enfin, en troisième partie, eh bien, nous nous demanderons comment ce terme d'espérance résonne pour chacun de nous en tant que croyant. Que l'espérance est au cœur de notre foi. Est-ce qu'elle nous permet de dépasser ce que on pourrait appeler nos limites humaines, notre impuissance humaine pour pouvoir entrer dans l'espérance. Alors, deux mots encore, et puis c'est promis, je me tais. Dans la langue française, et puis dans d'autres langues également, nous avons deux mots pour dire apparemment la même chose. Les dictionnaires, il en reste encore, il n'y a pas que Wikipédia, je suis allée chercher dans les dictionnaires, en font presque des synonymes. Il s'agit d'espoir et d'espérance. Alors très rapidement, je vais vous demander un premier tour de table de spécifier pour vous si ces deux termes, espoir et espérance, ont le même sens, si vous y voyez des nuances légères ou plus approfondies. On va commencer peut-être par la presse, monsieur Melouki. Voilà, c'est le gardien. Et vous, vous garderez.
Alors, je n'ai pas beaucoup de s'élever d'espoir et d'espérance. Je pense que l'espoir, c'est toujours quelque chose auquel on espère atteindre tout de suite quelque chose, me semble. Espoir de réussir à l'examen, peut-être d'acheter quelque chose ou peut-être d'atteindre quelque chose ici tout de suite, là. Et peut-être l'espérance, c'est quelque chose qui est dans la durée, qui peut être atteint tout de suite, mais peut-être plus tard, mais beaucoup plus dans un esprit d'espérance de longue durée. On pense sur quelque chose qui peut être pas forcément personnel, mais peut-être aussi par rapport à d'autres personnes ou la société dans laquelle on vit.
Très bien, Jude. En deux, trois mots, c'était.
Très bien.
Monsieur Nozé-Langois.
Je rebondis sur une expression que vous avez utilisée, vœux pieux. C'est une expression qui a un sens affaibli, péjoré, même péjoratif. Alors, il me semble que c'est l'expression qui convient le mieux pour définir l'espérance. Parce qu'il y a forcément quelque chose comme un vœu dans l'espérance, dans l'espoir aussi, puisque c'est ce dont on fait le vœu. Mais pieux, parce que je pense que la dimension de la piété, c'est quand même, enfin, voilà, je parle en catholique, c'est ce qui distingue l'espérance, à laquelle nous mettons volontiers un grand E, et puis tous les autres espoirs.
Bon, on ne va pas tout divulgacher, comme disent nos amis, nos cousins canadiens. La parole à Ariane, peut-être, voilà.
Oui, alors après moi je vais vous parler avec un petit biais, c'est celui de l'espérance, enfin de l'écologie mais du point de vue chrétien, parce que l'écologie c'est un grand thème, on peut le voir sous plein d'angles. Moi ce qui me relie c'est plus celui chrétien. Et c'est assez intéressant parce que nous souvent quand on entend écologie, en gros c'est pour entendre qu'il faut culpabiliser, il faut être totalement alarmé. Et c'est quand même totalement l'inverse qui nous est proposé dans une vision intégrale et dans la foi avec une création qui nous est confiée pour en prendre soin et sur lequel on a beaucoup de leviers, on peut faire de plus belles choses.
Pierre ?
Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Abdelatif tout à l'heure. Moi, je pense que l'espoir est quelque chose de plus construit. Je pense que l'espoir, c'est quelque chose de plus immédiat, comme tu l'as dit. Alors que l'espérance, et c'est pour ça que c'est assez normal qu'on discute espérance avec des gens, même s'ils ne sont pas religieux, qui ne sont pas des religieux, mais des gens qui ont une foi ou qui sont dans une tradition. Je pense que l'espérance, elle s'inscrit dans quelque chose de plus spirituel, de plus élevé et de plus distancié.
Voilà, merci à vous. Maintenant que tout cela est posé, eh bien, on va vraiment pouvoir se questionner sur tout d'abord donc, notre espérance ici-bas. On va peut-être, je ne vais pas parler d'espérance au singulier, mais des espérances, parce que peut-être sur notre terre, ici-bas, à hauteur d'homme, on peut parler de nos espérances terrestres, parce qu'elles sont multiples, elles sont nombreuses, elles sont diverses, et elles sont changeantes surtout. Alors nous allons les décliner, mais auparavant, j'avais une question pour tous les quatre. J'ai parlé d'espérance à hauteur d'homme. Est-ce que cela veut dire espérance raisonnable ? Espérance à hauteur d'homme, espérance raisonnable. Est-ce qu'on peut se contenter d'avoir des espérances raisonnables ? Espérance et raison, monsieur le philosophe. Est-ce que ça fait bon ménage ?
Alors, je rebondis encore sur votre expression. Vous dites à hauteur d'homme, et je serais tenté de dire, mais quelle est au juste la hauteur de l'homme ? Là, nous appartenons à des traditions qui justement, ont mis notre hauteur très haut. Ah oui. Et ce haut est ce qui donne son sens à tout le reste. Enfin, à tous les espoirs, plus immédiats, évidemment, bon, une transcendance, mais c'est...
Mais la raison, est-ce que... Voilà.
À la raison...
L'espérance, est-ce qu'il est... alors, est-ce qu'on a des espérances vraiment raisonnables, là?
J'ai été amené à commenter une parole attribuée à Saint Bernard, faite qui vient de plus haut, qui dit « La mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure ». Donc j'avais intitulé mon commentaire « Éloge de la démesure ». Et c'était dans un volume qui avait pour titre « Mesure et excès ». Donc voilà, pour pousser le paradoxe, parce que les philosophes aiment bien ça, j'avais voulu faire un éloge de la démesure, mais de cette démesure-là dont parle Bernard. Alors, on est guetté par deux choses. Ou placer, ou diviniser ce qui ne mérite pas de l'être et ne doit pas l'être, ou placer la divinité là où elle est et espérer en elle, donc relativiser tout le reste. Vous parliez de raison, rien ne me paraît plus raisonnable que ça, et rien ne me paraît plus déraisonnable que de diviniser ce qui n'a pas à l'être. Par exemple, le progrès avec un grand P, dont Benoît XVI a parlé dans son encyclique sur l'espérance et la foi au progrès, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure.
Tu veux t'exprimer, eh
bien,
Pierre ?
Oui, je veux bien m'exprimer sur la question de espérance et raison.
Il a raison, oui.
Et rationalité. Effectivement, ces deux mots qui ont l'air un petit peu antinomiques, mais pas si antinomiques que ça. Je pense que c'est pas un oxymore, et espérance et rationalité. Par exemple, je pense que la première espérance qu'on peut mettre en avant, par rapport à la question que tu poses, ben, c'est de l'accompagnement de l'autre, ou le fait d'aller vers l'autre. Je pense par exemple à quelqu'un qui souffre, à quelqu'un qui est malade, je vais parler d'otage, mais aussi quelqu'un qui est otage, par exemple. Ben, le fait d'aller vers cette personne, d'être à côté, de lui prendre la main, moralement ou matériellement, ça, c'est une espérance, notre propre expérience, qu'on offre à l'autre en étant à ses côtés. Donc, en ce sens-là, je pense qu'elle peut être rationnelle, parce que c'est vraiment une action, et elle peut être spirituelle en même temps.
Mm-hmm. Monsieur Milouki ?
Je crois peut-être l'espérance à hauteur humaine, moi j'ai un peu expliqué par rapport à ce que l'être humain espère dans cette vie d'ici-bas, l'aspiration à être, à avoir par exemple la réussite professionnelle, financière, ça peut être aussi. Ça peut être aussi la santé, le bien-être. C'est une espérance. Tu sais ce que l'être humain peut espérer, l'amour, le mariage, la famille, la sécurité et la paix. Je pense que c'est des choses sur lesquelles l'humain espère, tout humain, tout être humain.
Et c'est légitime d'ailleurs.
C'est ce qui est légitime d'ailleurs. Mais cette aspiration, c'est naturel et chacun, il peut y arriver ou pas. Mais ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas forcément cette réussite d'ici-bas qui peut faire tout. Ce n'est pas parce que la personne atteint une certaine richesse, on va dire richesse financière ou sociale, qu'il peut dire « j'ai réussi tout ». Peut-être que ce n'est pas assez suffisant. Et c'est juste peut-être de... alors... On ne va pas rentrer tout de suite, je pense, dans de ce qui est en lien avec...
Non, ce sera la troisième partie. Ariane, vous voulez exprimer ce sujet ?
Oui, moi je trouve que c'est très lié au thème de l'écologie, finalement, en tout cas la raison et le raisonnable comme je l'entends. Je ne suis pas universitaire, donc j'espère que c'est de bon sens. Mais parce que l'écologie, en fait, c'est un domaine qui relève de la science. Ça veut dire l'observation de l'interaction entre les êtres vivants et avec leur milieu. Et donc ça veut bien dire... justement, qu'il y a quelque chose de complètement scientifique à se poser des questions sur l'écologie, la conservation. Alors, de notre monde, parce que souvent, on entend, voilà, dans le sens planète, création, mais en fait aussi les interactions entre les êtres vivants, et donc, du coup, avec mon prochain, avec les autres hommes, toute la question sociale, de paix, etc., elle vient complètement interagir dedans. Et heureusement, la science, elle a des solutions aussi pour la création.
Pierre, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé d'action. Espérer, ce n'est pas rêver. L'espérance, est-ce Elle se doit d'être active. Tiens, bien sûr, on peut toujours espérer attendre, tout attendre de la providence. Mais il y a aussi un dicton qui nous dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ».
Oui, je suis bien d'accord. C'est pour ça que je parlais d'oxymore. Ça paraît oxymorique de dire action et espérance. Puisque dans l'espérance, il y a quand même un petit côté « j'espère que ça va arriver ». Voilà. Et c'est vrai que ce « aide-toi et le ciel t'aidera », il prône l'action. Et évidemment, on ne peut que prôner l'action. Quand on est, je pense que quand on est sur Terre et puis qu'on a envie de faire sa place sur Terre, bien sûr, les éléments que tu as donnés, Abdelatif, que vous avez donné, monsieur, mais aussi des éléments tout simplement de faire action, de faire œuvre utile, ça fait partie des espérances, je pense, qui sont inscrites en chacun de nous. On n'est pas là pour faire autre chose que espérer faire œuvre utile. Donc, en cela, oui. Oui.
Je rebondis encore.
Je veux t'en détache.
Je vais le fatiguer. Mais oui, vous demandiez si... vous interrogez sur les rapports entre l'espérance et le rêve. Si l'espérance pouvait se réduire à un rêve. Et ça m'a fait penser immédiatement à un certain Martin Luther King et un discours célèbre, « Have a dream ». Donc, il disait « J'ai un rêve ». Et son rêve, nous le connaissons bien, c'était la fin de la discrimination raciste entre les Noirs et les Blancs, là-bas, bon, qui s'est en partie au moins réalisé. Mais voilà, il présentait ça comme un rêve, et un rêve pour lequel il œuvrait. Bon, il y a laissé sa vie, parce qu'il a rencontré de l'opposition, et puis il a été un martyr de son rêve, mais qui était... Et un martyr de son espérance. Hein. Ce rêve-là, c'était une véritable espérance, et qui d'ailleurs était connecté à l'espérance avec un grand E dont je parlais tout à l'heure.
Oui, justement, l'action, c'est important aussi. Ce n'est pas d'essayer de dire, voilà, j'espère arriver, juste comme ça, en attendant, ou croisant les bras. Certainement, il faut être actif et faire tout le nécessaire pour réussir. C'est pas pour autant. Si on ne réussit pas, c'est pour autant que c'est mal ou c'est mauvais. C'est que parce que aussi un certain destiné, ce qu'on appelle une destination, enfin, la destination dans le terme musulman, c'est aussi le fait de réussir quelque chose. C'est très bien qu'on ne réussit pas, c'est aussi bien. Ils sont contents de eux, mais ils sont heureux aussi avec ce qu'ils ont. Voilà, c'est pas parce qu'on est très riche, on est très heureux aussi.
Tout à fait. Alors, revenons, si vous voulez, à des exemples peut-être plus concrets de nos vies, alors personnelles, ou familiales, amicales, ou de la sphère publique. Est-ce que ici, à Toulouse, sur ce petit coin de terre occitane où nous vivons tous, hein, où je ne sais qui nous a amenés, vous êtes témoin parfois de signes d'espérance. Dans ce monde, on disait, tellement sombre, tellement désespérant, désenchanté, des signes d'espérance, des tout petits parfois, hein, c'est minuscule, mais qui éclairent une journée. Est-ce que vous êtes des témoins de scènes d'espérance, ou même vous-même acteur à un moment ou à un autre, Pierre?
Alors, Marie-Pierre, je n'ai pas d'exemple immédiat parce que j'ai une mémoire très courte, parce que je suis justement un peu trop actif, mais je sais, parce que je le vis, que presque tous les jours, je me dis, vraiment, les gens sont adorablement attentifs, ils ont la mémoire de ce qu'on leur a dit, les gens, voilà, j'ai pas d'exemple d'hier ni d'aujourd'hui suffisamment proche de moi, mais très souvent je me dis ça.
À savoir les portraits, par exemple, des personnes que vous avez rencontrées à la synagogue ou bien à la prison.
Ça, c'est différent. Oui. C'est différent parce qu'on a, quand on interviewe quelqu'un, on le met vraiment un petit peu sur le grill, on lui demande vraiment de... Moi, j'essayais dans cet ouvrage, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'avoir un portrait en creux de la synagogue, mais aussi de les questionner sur leur foi, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. D'abord parce que je suis juif, et ensuite parce que la foi, c'est tellement personnel. Dans le judaïsme, on pourra en parler si on en a le temps, dans le judaïsme, la foi est moins exprimée, et moins induite, et moins questionnée que dans le christianisme. Et dans l'islam, justement, c'est intéressant qu'on en parle, c'est encore différent. Donc voilà, c'est là-dessus que je les ai interrogés, mais ils ont tous fait preuve d'une grande gentillesse, parce qu'ils ne m'attendaient pas, et ils ont accepté, avec gentillesse. Donc moi, tous les jours, j'ai l'impression de réaliser l'amour des gens, quoi, et le besoin d'aimer, le besoin d'aider, qui est autour de nous. Et parallèlement, dans mon métier, j'interviewe pas mal de gens, par exemple, dans le milieu médical, pour faire avancer, justement, les questions de santé. Je m'aperçois, et on fait un grand travail en ce moment avec les 10 URPS de soignants en Occitanie, je m'aperçois qu'il y a une souffrance des soignants parce que c'est difficile de soigner et d'être souvent mal perçu, mal... Les soignants, on leur parle mal et ils en souffrent. Voilà. Donc, il y a une vraie souffrance des soignants. Les derniers médecins que j'ai interviewés, bon, il y a des gens âgés, hein, qui continuent à travailler après 70 ans, me disent que les patients sont beaucoup plus agressifs qu'avant. Donc, il y a une sorte de difficulté. Voilà. Donc, il y a les deux.
Ça se traduit pour eux par une attente plus qu'une espérance.
Cette fameuse notion d'espérance qui est liée à la condition humaine et qui est démontrée par ces gestes d'inconnus ou de gens peu connus qui ont comme ça cet élan, elle est aussi démentie par des patients qui sont parfois, enfin qui sont même de façon certaine, beaucoup plus agressifs qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Et ça, c'est une vérité. C'est pas c'était mieux avant. C'est qu'on est, on est dans une société plus clivante, plus impatiente et plus agressive. Voilà, c'est pas moi qui le dis.
Impatience. Ah, c'est un terme que j'avais noté. J'avais pas noté impatience, j'avais noté patience. Tout comme on a essayé de mettre en regard ou en écho raison et espérance. Mais on pourrait mettre en parallèle ou en miroir espérance et patience. L'espérance, c'est la patience aussi.
Oui, surtout quand l'objet de l'espérance est celui que j'ai déjà évoqué, donc au-delà de tout ce qu'on peut espérer dans l'immédiat. Les premiers chrétiens pensaient que ça allait arriver tout de suite, le retour du Christ, et puis ils se sont rapidement aperçus qu'ils allaient devoir patienter un peu, beaucoup.
Ouais, je pense que je vais paralléliser un peu plus, mais la patience est très important pour espérer, être très 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 patient. On ne suit pas le vieux malade, elle ne s'est pas amenée. Mais comment on fait un travail collectif, on espère réussir, mais collectivement. Ce n'est pas parce que moi-même j'ai participé à une action, on n'a pas atteint ce qu'il fallait, mais peut-être entre-temps, je suis plus là, mais je suis patient pour réussir, mais pas pour moi, mais aussi pour les autres, c'est-à-dire pour l'humanité qui continue à vivre. C'est-à-dire que cette patience, c'est très important dans la vie et pour espérer qu'on se patiente. Sinon, on n'est pas patient, ben, je pense que ça va de soi.
Non. Oui, ben c'est celui qui se met à construire une maison, ou tout simplement les corps de métier qui sont impliqués dans la construction d'une maison, savent bien qu'il faut y consacrer tout le temps nécessaire. Si on va trop vite, voilà. La patience est quand même un sérieux remède à la précipitation, qui gâche beaucoup de choses et d'espoir éventuellement.
Oui. Monsieur Melouki, vous disiez donc que la patience, l'espérance et patience, ça dépasse parfois et souvent même le simple fait d'une vie humaine, d'une vie singulière. Elle peut être cette espérance portée par toute une famille, par toute une communauté. Pierre, lorsqu'on s'est appelé pour préparer cette rencontre, vous m'avez dit, chez nous, On a dit pendant des générations et des générations et des générations, l'année prochaine à Jérusalem. Et puis un jour, c'est arrivé.
Exactement. C'est vrai que quand on a parlé d'espérance, qui est une notion tout à fait que je que j'ai jugé, alors avec ma partialité, hein, que j'ai jugé davantage chrétienne que juive, j'ai quand même pensé assez vite, quand on en a parlé au téléphone, qu'il y avait quand même des fêtes chez nous. Pour ceux qui connaissent un peu les fêtes juives, il y a des fêtes qui représentent vraiment l'espérance. Et j'ai pensé d'abord à Pessah, la Pâque juive, où on se dit justement l'année prochaine à Jérusalem, et c'est vraiment une notion sur le temps qui est très forte, presque eschatologique, quoi, c'est jusqu'à la fin des temps. Et puis il y a une fête qui est, à mon avis, encore plus liée à l'espérance, qui recèle encore plus d'espoir et d'espérance par le symbole qu'elle a elle-même, c'est Hanouka. Hanouka, c'est la fête des Lumières, ceux qui ne connaissent pas, qui tombe à peu près comme à Noël, à la même
cette année, d'ailleurs, Noël, c'était le 25 décembre.
Pile le même jour, le jour de la naissance de Jésus. Donc ça tombe en plein hiver, et on allume une bougie par soir pendant 8 jours. Et alors c'est une fête qui représente, qui célèbre un miracle qui a eu lieu il y a longtemps, et qui a fait fonctionner une fiole d'huile pendant une semaine, alors qu'il y avait vraiment de quoi fonctionner une heure ou moins d'une journée. Voilà. Et donc, cette fête de Hanouka, c'est une fête d'espérance, puisque son symbole, il y a de multiples symboles, mais celui qu'on aime bien transmettre, qu'on aime bien rappeler, c'est que il suffit d'une toute petite lueur pour que l'obscurité cède. Voilà. C'est un peu le symbole de Hanouka. Et c'est aussi, pardon de tenir le crachoir longtemps, mais je laisserai la parole à mes voisins. C'est aussi l'idée que dans le judaïsme, il y a la notion de réparation du monde, le tikkun olam, qui est aussi quelque chose qu'on enseigne aux enfants et qui fait partie aussi des symboles juifs. Dieu a créé la terre en 6 jours, le 7e jour il se reposait, et ce 7e jour, c'est cette espèce de vide, finalement symbolique, qui est la partie que l'homme doit, lui, continuer, et c'est ce fameux tikkun olam, cette réparation du monde, qui est sans fin, et qui est une sorte d'espérance, puisque c'est aussi le rôle de l'humain par rapport au divin. Voilà. Suivant.
Ariane. Dans le domaine de l'écologie, la patience, c'est une vertu. Il faut avoir la vertu de la patience pour réparer le monde, réparer notre planète.
Oui, c'est, je pense, une notion qui est assez compliquée en écologie en fonction du regard avec lequel on la voit. Sur le regard, voilà, plutôt de mon prochain, de l'homme intérieur, de l'âme, etc. Effectivement, on est sur quelque chose qui va rejoindre un peu ce qu'on peut dire les autres sur être patient, avancer au fur et à mesure. Il y a toujours quelque chose à construire. C'est vrai que ça va être un peu plus difficile du point de vue de l'écologie plus planétaire, où on sait qu'on a tellement avancé dans un sens que pour avancer dans l'autre sens et revenir à l'équilibre, on n'a quand même pas tant de temps que ça. Donc,
il y a urgence.
Oui, là, il y a un peu
on va gommer la patience, mais on mettre en avant le
c'est
terme
ça.
Urgence.
Le terme patience, il est un peu plus compliqué, et en même temps, on sait que ça reste une conversion qui doit se faire à l'intérieur, dans les cœurs, dans les pensées, un apprentissage. Donc, il faut quand même rester humble et ouvert. On n'a jamais... convaincre personne avec de la, enfin très rarement avec de la culpabilité ou avec des ordres
des
à faire, oui, des injonctions, mais quand même il y a quelque chose qui est plus difficile sur la patience. Et en même temps, du coup, c'est aussi reconnaître dans cette patience qu'il faut avoir que tout ne m'appartient pas et que tout ne va pas se passer par moi, et qu'il y a quelque chose qui va me dépasser aussi, et que là-dessus il y a de l'espérance sur le ok, moi j'amène ma pierre à l'édifice et il faut que je l'amène, c'est quand même un chemin à faire, et ensuite je dois aider aussi les autres à être entraînés à ma suite et à la suite des autres, mais il y a quand même quelque chose qui ne m'appartient pas et qui est au-delà, et alors là, c'est quelle est cette espérance derrière.
Donc une fragilité aussi, l'espérance, une fragilité et en même temps une grande force. Alors je pense, en préparant cette rencontre, moi j'ai été habitée, j'ai beaucoup pensé à ce très beau poème de Charles Péguy, La petite fille Espérance, cette toute petite fille de rien du tout, Et c'est elle qui prend par la main ces deux grandes sœurs qui sont grandes, qui sont fortes, hein, la foi et la charité. Mais non, c'est la petite espérance qui est là juste devant. Et néanmoins, aujourd'hui, alors si on regarde nos journaux, on lit la presse, on écoute les uns et les autres, on s'est dit qu'il y a une forme de désespérance. Alors désespérance, c'est peut-être pas le mot, est un petit peu trop fort. On pourrait parler parfois de désenchantement. C'était dans les années, je sais pas si vous en souvenez, oui, parce que nous sommes tous à peu près d'un âge où on peut s'en souvenir. Sauf Ariane. Dans les années 70, là, du XXe siècle, on a vu fleurir sur des murs dans les villes ce slogan, je crois que ça venait d'une chanson punk, No Future. S'il n'y a pas de futur, sans avenir, que devient l'espérance, Michel Naudet-Langlois?
Oui, on peut répondre qu'il n'y a plus rien, parce que l'espérance est forcément tournée vers un avenir, comme l'espoir. Alors, je reviens à ce que je disais, parce que tout espoir vise un certain avenir qu'on considère comme bon et qu'on s'efforce de réaliser. Et puis, il y a cette espérance qui vise plus qu'un avenir, puisqu'elle vise l'éternité, et que l'éternité, c'est encore autre chose qu'un temps futur. Vous posiez, dans le message que j'ai reçu, vous posiez la question, y a-t-il une crise de l'espérance?
Oui.
Ou un déclin de l'espérance? Bon, on est tenté de répondre oui. Et puis, quand j'ai réfléchi à votre question, quelque chose m'a traversé l'esprit, parce que je me suis dit, bon, au fond, on pourrait penser au XIIIe siècle, celui de Saint Thomas, où on construisait les cathédrales. Et les cathédrales, c'était quand même des œuvres d'espérance.
On parle des beaux XIIe et XIIIe siècles. Voilà. Après, ça va décliner un petit peu.
Oui.
Là.
Mais bon, je ne vais pas faire d'histoire, mais je pensais au XIIIe siècle, à la construction des cathédrales. En soi, construire une cathédrale, ça suppose qu'on espère quelque chose de très grand et qui prend du temps. C'était des dizaines d'années. Bon, et puis, on peut se dire, ben voilà, là, l'espérance était motrice. Et puis, il est arrivé quand même quelque chose de très récent, où cette espérance-là est tout d'un coup revenue sur nos écrans, enfin, dans nos journaux. On a été obligé de réparer Notre-Dame, qui a brûlé en partie et qui a failli s'effondrer. L'effondrement de Notre-Dame, enfin, moi, je n'ai pas pu regarder les flammes qui dévoraient le toit de Notre-Dame, ça faisait trop mal. Et à ce moment-là, on se disait, elle va peut-être s'effondrer complètement. Bon, vous connaissez la suite de l'histoire. Bon, quelle que soit la gloire que certains tirent du fait qu'on l'ait reconstruite, n'empêche, je vois que cette espérance-là et ce symbole de l'espérance qui a été plus qu'un symbole parce que ça a été une réalité.
Et qui a dépassé tout à fait le monde chrétien.
Ah oui, complètement. Complètement. Mmh. Quelqu'un ne peut plus entrer à Notre-Dame, même en payant, parce qu'il est tellement bon qu'il est rempli.
Et oui, je peux plus y rentrer.
Pierre,
oui. Oui, moi je suis allé à Paris il n'y a pas longtemps. Je suis allé à Notre-Dame, j'étais attiré par le. Et je n'ai pas pu rentrer, trop de monde.
Trop de monde encore, rien. Bon, on va attendre un petit peu. On parlait de patience hein, tout à l'heure. On change un petit peu d'optique là. Je vais me faire, si vous me permettez, Monseigneur, l'avocat du diable. Hein. Vous me pardonnerez après. Hein. Est-il sage d'espérer? Certains philosophes, là on parle des stoïciens, ils disent tout compte fait. L'espérance, oui, mais si on n'espère rien, on n'attend rien, on atteint peut-être une certaine sérénité. Donc l'espérance, n'est-ce pas une passion, un rêve, un désir qui va rester inaccompli si on n'espère rien, tout compte fait. C'est Mélouki ?
Alors, espérer, c'est d'abord si on est là tous, je pense, parce qu'on a de l'espoir, et on espère beaucoup déjà cette soirée, c'est important. Je pense, je garde au pied l'idée, c'est parti, mais je vais peut-être me retrouver. C'était sur la. Et moi, je te laisse, parce que j'ai oublié la question.
La question, c'est de dire, est-ce qu'il est sage d'espérer?
Alors,
sage, oui, on parlait de raison, tout ça.
L'espérance, je pense, c'est là, c'est une sagesse. L'espérance, c'est une sagesse. Parce que si on n'est pas sage,
et patient qu'on ne peut pas être, on ne peut pas espérer. Ça dépend. On est impatient pour y arriver à quelque chose. On est pressé par le temps, par aujourd'hui, surtout maintenant avec l'actualité, tout ce qui se passe. On a envie tout de suite d'arriver à quelque chose. Alors, l'espérance se construit et c'est dans la continuité d'une vie, mais pas que d'une vie humaine. Ça veut dire, l'être humain existe depuis des millénaires. Et je pense que ce que l'être humain vit aujourd'hui, en moyen, c'est rien comparé à ce que toute l'humanité a vécu. Ce qu'on vivra plus tard, c'est aussi, du point de vue islamique, la vie ne s'arrête pas là, c'est plus. L'espoir aussi, l'espérance d'ici-bas, un lien direct avec l'espérance de l'au-delà. C'est forcément un lien. C'est-à-dire, l'être humain ne travaille pas dans cette vie que pour vivre les 70 ou 80 ans dans son vivant, c'est aussi travailler après. C'est vital de dire que c'est pour un musulman, c'est très important, c'est un lien. C'est pour ça cette relation entre des êtres humains, quelle que soit leur confession, quelles que soient leurs origines, c'est un lien, parce que si le Créateur a créé tous les êtres humains, il a fait le choix aussi de les créer différemment et différents, et qu'ils ne se ressemblent pas. Mais en lien qu'il y a en société, et justement permettre à ces êtres humains qui font société de vivre et surtout de se respecter dans leurs différences. Forcément, pour revenir à l'idée de la sagesse, de l'espérance, c'est que travailler sur Terre pour réussir des choses et aussi travailler de là, parce que un capital, ce qu'on a dit dans l'islam, c'est d'avoir un capital qu'on partir avec pour permettre de...
On va en reparler. Hein?
Voilà, je ne veux pas rentrer dans ce
Oui, on va en reparler. On reste encore quelques instants.
On reste sur Terre.
Hein. Voilà, sur Terre, sur cette crise de l'espérance. Ariane, là, je me tourne plus particulièrement vers vous. Il y a des jeunes femmes, des jeunes couples qui aujourd'hui refusent d'avoir un enfant, refusent de mettre des enfants au monde parce qu'ils ont peur de cet avenir sombre ou de ce non-avenir. On parle beaucoup de crise, enfin d'éco-anxiété. Vous la sentez, vous la percevez autour de vous, dans votre entourage, dans votre milieu professionnel, familial, amical.
Et c'est très intéressant, j'allais venir là-dessus de toute façon, parce que je dirais que la différence fondamentale sur ce point de vue-là, c'est est-ce qu'il y a de l'espérance ou pas. Et là-dessus, ça va être la grosse différence. C'est pour ça que je vous disais, il y a plusieurs écologies. C'est comme il y a plusieurs agricultures. Entre le port noir gascon à côté de chez nous et les grandes plaines céréalières vers Chartres, ça n'a rien à voir. Pourtant, c'est de l'agriculture. Bah, dans l'écologie, c'est pareil. Et effectivement, tout dépend de quel regard on a. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans les médias, globalement, ce qu'on nous montre, c'est quelque chose de très éco-anxieux. C'est des gens qui refusent d'avoir des enfants. Alors après, très souvent, quand on discute avec eux, c'est un peu quand même par amour et par absence d'égoïsme. Ça serait trop égoïste de mettre ses enfants au monde. En gros, c'est le discours qu'ils vont avoir, si je résume, voilà.
C'est égoïste pour les parents. Les parents veulent se faire plaisir d'avoir un enfant, c'est ça?
Non, en gros, refuser d'avoir un enfant serait pour eux le fait de ne pas lui offrir une vie mauvaise et difficile et de guerre. En gros,
c'est altruiste.
Oui, c'est ça, c'est altruiste selon leur pensée. Et c'est là où il va y avoir une grosse différence avec la pensée autour de l'écologie chrétienne qui ne va pas du tout véhiculer ce message. Tout en restant raisonnable de qu'est-ce que je peux offrir, mais ça c'est une autre question, mais en tout cas qui dit continuez à avoir des enfants parce qu'en fait il y a cette espérance de on peut agir, on peut faire des choses, on a confiance dans le fait qu'on est accompagné aussi dans cette démarche, et du coup ça va être un point très différent. Et tout ça parce qu'on nous a donné des dons et des vertus, on nous a donné la foi, on nous a donné la charité aussi, parce que se pose aussi la question de envers nos frères. Aujourd'hui, personne pense à personne, on est très égoïste, on va pas voir nos grands-parents, on passe notre temps sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a plein de choses, et en fait non. Parce que sinon, on arrête, on fait un voyage paroissial aux Maldives, tout le monde part, c'est comme la dernière soirée, on profite de tout avant que le monde le monde s'arrête et c'est pas du tout, du tout la pensée. Mais après, forcément, prendre soin, ça a toujours demandé des efforts.
Des efforts et un décentrement aussi, oui. Dans le domaine, Pierre, dans le domaine social, politique aussi, cette espérance qui pourrait prendre le terme, on pourrait parler de promesse, mais souvent grande déception depuis le temps qu'on nous annonce des mondes meilleurs, des lendemains qui chantent. Mais souvent après, on pourrait parler de promesses non tenues, d'espoir, d'espérance déçue. Donc là aussi, peut-être un monde, il y a un certain marasme.
Oui, je pense qu'il faut faire la différence entre l'espérance et l'illusion. La question de tout à l'heure sur est-il sage d'espérer, oui. Je pense que c'est une question fondamentale et même consubstantielle à l'homme. Moi, je pense, et je pense que les poètes l'ont dit aussi, et les philosophes aussi, qu'il n'y a pas d'humain sans espérance. Et la condition humaine, quelle que soit la foi qu'on ait dans une vie après la mort, par exemple, la condition humaine fait que, sans espoir, on sombre. Voilà. Donc je pense que non seulement il est sage d'espérer, mais il est vital d'espérer et d'avoir une espérance. Une espérance, et je pensais à une chanson que tout le monde connaît, « Mon ami la rose », qui était chantée par François Hardy, qui nous a quittés il y a peu. Donc la rose est très belle, elle dure peu de temps, puis elle se fane. Et puis, bon, vous connaissez tous le refrain, je ne vais pas chanter.
Si.
Et quand elle meurt, les derniers vers du texte, c'est « Moi, j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. » Voilà. « Mon amie, la rose, est morte ce matin. J'ai vu son âme qui partait, éblouissante et nue, et qui nous souriait. » Et voilà. Et je trouve que c'est très vrai, c'est vraiment le bon sens populaire qui est dans cette chanson, et j'imagine que dans Brassens, il y a aussi beaucoup d'espérance.
Ouais.
Non, espérance, d'espérance. Et donc, pour revenir à la question, la différence entre espérance et illusion, c'est que, voilà, quand on prend de l'âge, on ne se raconte plus vraiment d'histoire, et on sait très bien faire la différence.
Ça sépare un petit peu.
Voilà, on se débarrasse, et on écarte ce qui est illusoire, et on essaye de garder ce qu'on est capable de tenir. Voilà, donc une espérance qui est tenue, bah, c'est différent d'une illusion.
Et donc là, ce qui m'amène à penser que l'espérance, c'est un trésor à cultiver toujours. Toujours eu des enfers sur Terre. On peut parler d'enfer, je pensais à Dante par exemple. Dante, lorsqu'il écrit la Divine Comédie, il commence par son personnage arrive d'abord aux enfers, puis le purgatoire et puis le paradis. Et lorsqu'il arrive aux portes de l'enfer, il écrit ceci, j'avais noté, vous qui entrez ici, voilà. Abandonnez toute espérance. Ouais. Donc un monde sans espérance, c'est l'enfer, c'est la mort, c'est mortifère.
Mais là, c'est de la littérature.
Ça, c'est de la littérature. Oui, mais la littérature dit beaucoup aussi de notre monde. Une façon de le dire.
Voilà, si on veut vraiment personnifier l'enfer, si on veut essayer d'exprimer un tant soit peu ce que peut être l'enfer, le diable, etc., ben voilà, c'est ça. Dante Alighieri l'a très bien résumé. Mm-hmm. Abandonner tout espoir, c'est impossible.
Mm-hmm. Garder l'espérance. L'espérance, c'est un trésor. Hein. La semaine dernière, quand je préparais la revue presse, je suis tombée sur un papier d'une de nos consoeurs du journal Réforme, qui est un journal protestant de l'actualité, qui parlait d'Étille Le Soum. Étille Le Soum est une philosophe qui a beaucoup, beaucoup cherché Dieu. Hein. Elle disait d'elle-même qu'elle était cette fille qui ne voulait pas s'agenouiller et qui a été assassinée à Auschwitz en 1943. Et cette journaliste a rappelé quelques mots d'Étille Le Soum qui disait avoir vu ou peut-être entendu parler d'une famille juive qui s'était cachée au début de la guerre dans une cave à Cologne et qui avait inscrit sur les murs, je vais vous le citer parce que je l'ai retenu, c'est vraiment très beau, « Je crois au soleil même quand il ne brille pas. Je crois en l'amour même quand il ne m'entoure pas. Je crois en Dieu même quand il se tait. » Je dis, c'est espérer au-delà de toute espérance. Et c'est ce qui nous amène, je crois, sur notre troisième partie, mais peut-être d'abord un mot, Pierre.
Oui, j'avais juste une toute petite anecdote, puisqu'on parle des camps de la mort, pour vous. J'ai beaucoup fait témoigner des rescapés de la Shoah, notamment un couple, Marie et Jean Weisslick. Jean est mort il y a peu, et Marie continue à témoigner. Et dans ce qu'elle raconte, quand on, les étudiants ou les élèves la questionnent, elle raconte tout ce qui s'est passé. Et puis, elle raconte, il y a juste un épisode que je trouve très intéressant, que je voulais vous dire, et qui est de l'espérance, à mon avis, à l'état brut. C'est elle, quand elle dit « la seule chose que je pouvais faire », elle avait 14 ans, entre 14 ans et 15 ans, « la seule chose que je pouvais faire et qui me donnait de l'énergie, quand je me retrouvais seul et qu'aucun capot ne me regardait, aucune capot ne me regardait, puisque c'est, les camps, c'est toujours au milieu de très grandes forêts, elle allait contre un arbre, elle serrait l'arbre dans ses bras et elle avait l'impression qu'elle reprenait de l'énergie. Elle mangeait, elle était maigre comme un con, elle n'en pouvait plus, elle était fatiguée et voilà. » Et le fait d'embrasser un arbre lui redonnait un peu d'énergie. Et elle m'a confié, et elle le dit aussi aux enfants qui l'interrogent, que c'était son exutoire, son espoir dans quelque chose de plus fort que...
Donc, là, je dis, donc ça nous amène à aborder donc, notre troisième grand axe de cette rencontre ce soir. J'aimerais d'abord que l'on puisse se dire mutuellement ce que cette espérance signifie pour nous, dans notre propre foi. Pierre, vous l'avez juste un petit peu abordé, je vais donner la parole à Delatik. L'espérance dans l'islam, dans la foi de l'islam, quelle est sa place?
Tout à l'heure, j'ai mis de parler de spiritualité et de religion parce que vous voulez laisser de choix. Hein. Mais toute espérance a un lien avec le Créateur. Forcément, si on est croyant et qu'on est. On a tous spiritualité, on ne peut pas perdre espoir et espérance. Je pense que c'est lié, parce que forcément un croyant et quelqu'un qui a la foi, il est tout simplement, n'attend pas toujours de l'être humain quelque chose en retour. C'est-à-dire qu'il y a un créateur qui l'a au répondre, exaucé ses voeux aussi. C'est très important. Dans l'islam, c'est presque quelque chose de ça fait partie du dos même du musulman, c'est-à-dire que de croire à l'espérance, croire au Créateur, promet qui laisse aussi dire dans cette vie ici-bas et préparer celle de l'au-delà.
Donc il y a une espérance dans la vie au-delà de la mort.
Bien sûr, parce qu'on peut tout de suite, je reviens peut-être à l'idée que j'ai tout à l'heure qu'on ne peut pas avoir des enfants parce qu'on ne peut pas préparer une vie meilleure pour les enfants. Mais peut-être, si on est là, on est déjà une créature. Si on est là, c'est aussi pour avoir aussi une famille, des enfants et continuer à perpétuer la tradition humaine, on va dire. On ne peut pas couper, juste décider par nous-mêmes en disant « Non, on arrête d'avoir des enfants. » Je pense que c'est problématique. D'ailleurs, on voit un peu, il n'y a pas très longtemps, hein, ils ont pas vu, avec Carlé Dalgo qui était un peu vulgarisé, de dire « Voilà, on est arrivé à c'est pas un nombre de croix de démographie faible qui s'appelait et c'est dangereux pour la société. » Je pense que c'est dangereux pour toute société qui pense un jour arrêter d'avoir des enfants, tout simplement parce que on ne veut pas notre climat. Mais nous, êtres humains, comme l'islam, on dit, du point de vue islamique, on n'est que des êtres humains. Mais on oublie qu'il y a un créateur qui nous a créés, qui gère la terre, les cieux, l'univers, les univers. Et on n'est très rien, on n'est rien à côté de ce que le créateur a fait. Qu'est-ce que nous, on peut décider à la place du créateur? On est pratiquement juste. Imaginons ce qu'on représente nous sur Terre. Voilà, et je pense que c'est là où peut-être ce lien en islam, ce lien c'est très, très, très même la relation quotidienne de tous les jours, déjà le fait de se lever le matin et se permettre de dire voilà, je suis bien, en bonne santé, c'est déjà un bonheur, une satisfaction. Et le fait de dire, voilà, aujourd'hui, je peux noter trois points positifs que j'ai réussi dans ma vie, dans la journée. C'est très important. Ça donne de l'espoir. On peut aussi en faire plus demain, plus et ainsi de suite. C'est quelque chose de spirituel, je pense. Là, je ne sais pas par rapport à tout le monde, mais je pense là, il y en a pas mal de croyants. Je pense que vous partagez pas mal de choses avec moi.
Oui. Donc, c'était une espérance, une foi qui vous habite, qui vous fait avancer. Pierre, donc, vous nous disiez que dans le judaïsme, l'espérance n'est, disons qu'elle n'est peut-être pas le centre exactement. Est-ce que c'est une promesse plutôt, non?
Alors attention, c'est ma perception. Moi, je ne suis pas... je ne prétends pas connaître suffisamment bien. Je ne suis pas rabbin. Donc, simplement, ma perception, c'est que l'espérance, comme la foi, ne font pas partie du judaïsme au quotidien. Le judaïsme au quotidien, c'est une pratique assez
on parle d'orthopraxie.
Ouais. Voilà, assez costaud, avec à la fois des contraintes, ce qu'on appelle des mitzvot, c'est-à-dire des consignes à accomplir. Et il y a une espèce de slogan dans le judaïsme, c'est « fais et tu comprendras ». Donc c'est le principe même de la foi. Donc l'espérance, elle est certainement contenue dans ce message un peu subliminal, mais elle n'est pas définie comme telle. Donc on sait qu'il y a de l'espérance dans nos fêtes, on sait qu'il y a de l'espérance dans un lendemain à Jérusalem qui est entre guillemets le symbole d'un rattachement. Et voilà, et on sait aussi qu'il y a...
La promesse faite à Abraham. Hein.
Voilà, exactement, la promesse faite à Abraham d'une nation, d'un peuple, d'une vie longue, de très nombreuses générations. Et puis aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, et puis aussi d'une vie après la mort, évidemment, puisque c'est l'espérance ultime.
Il y a donc une espérance de vie après la mort aussi.
Dans le judaïsme,
Des sensibilités ou...
Il y a dans la halakha une possibilité de vie après la mort. Et il y a aussi un messie possible dans le judaïsme.
Une espérance messianique aussi.
Une espérance messianique et une espérance de résurrection. Voilà, c'est deux notions qui sont dans le judaïsme. Mais on n'en parle pas tous les matins. Voilà.
Non, c'est le pourquoi de cette rencontre et se dire à quel point c'est enrichissant de se rencontrer, de dialoguer, de se comprendre, de s'écouter. Et là, je crois qu'on on parlait des pèlerins de l'espérance. Cette rencontre ce soir, c'est une rencontre très, très, très vivifiante. Je ne sais pas, vous allez nous le dire dans un petit moment. Mais moi, je trouve d'une très grande richesse et puis d'une très grande fraternité pour rester dans la thématique de ce soir. Ariane et Michel Murier, on va terminer sur cette espérance chrétienne, une espérance donc de la résurrection. Je voudrais juste terminer avec ce verset. Si la première épître de Pierre, soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte. Je crois que ce soir, c'est ce que vous avez fait, tous les quatre. Et pour cela, moi, je vous dis un immense et un très, très chaleureux merci.